Ce soir, on va continuer l'étude sur les dons, sur les dons spirituels, mais en réalité, on ne parle plus nécessairement des dons spirituels. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que les dons spirituels, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne. C'est un cadeau que Dieu donne d'avoir une manifestation du Saint-Esprit qui est dans notre vie. C'est un don. Un don, c'est un cadeau. On a parlé des dons spirituels, on a parlé des dons de service, qui sont des dons aussi que Dieu donne, des capacités pour pouvoir être au service des autres. Ce soir, on va commencer à regarder les ministères. Un don de ministère, c'est un don aussi d'être dans le ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. C'est des dons que Dieu a donnés dans l'Église, c'est des enseignants, c'est des personnes qui sont là. C'est 5 ministères que Dieu a donnés dans l'Église. Puis les dons de ministère, on le dit un peu dans le titre, c'est des dons faits aux hommes par le Seigneur dans le but de former et d'équiper les chrétiens pour le ministère. Le but que les ministères sont donnés, d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur et docteur, c'est dans le but de former l'Église pour que les gens reçoivent l'enseignement qu'ils ont besoin. Ça a commencé là 2000 ans. Les premiers apôtres étaient là. C'est eux autres qui ont reçu la grande commission. Puis, c'est des dons. C'est un cadeau que Dieu a fait aux hommes d'avoir des gens avec ces ministères-là. On voit dans Éphésiens 4:8 ce passage-là. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, puis il a fait des dons aux hommes. Puis là, juste quelques versets plus loin, ça dit, il a donné, comme aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Puis ça nous dit dans ce passage-là, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que les saints, tous les chrétiens, puissent être perfectionnés dans le Seigneur. Le seul qu'on va voir ce soir, qu'on va regarder comme un survol, pour essayer de comprendre c'est quoi les tâches de chacun de ces ministères-là, le seul qu'on va recommencer à regarder ce soir, c'est le ministère d'apôtre. Et les apôtres, qui est le mot en hébreu, en grec, je veux dire, apostolos, le mot apôtre, ça veut dire envoyé en avant. C'est des messagers, c'est des ambassadeurs. C'est des gens qui ont été choisis, les apôtres, pour être envoyés par Jésus-Christ, pour aller au-devant de lui. Puis là, on le sait en lisant les évangiles que Jésus s'est choisi 12 apôtres en partant. Ces 12 apôtres-là, ils étaient envoyés à aller porter la parole de Dieu dans des endroits où ce que Jésus devait passer. Fait que c'est comme si eux autres, ils étaient envoyés pour aller commencer la mission de parler du Seigneur aux gens. Là, Jésus arrivait par la suite, tout le monde venant en foule pour recevoir le message, être guéri puis être délivré, etc. En fin de compte, les apôtres, les 12 qui ont été choisis, c'était des délégués, des messagers, ça c'est tous les sens qui peut être écrit ce mot-là. C'est des délégués, des messagers, celui qui est envoyé avec des ordres. C'est une mission qu'il avait reçue. C'est un ordre que Jésus les avait envoyés d'aller là. Puis ça, c'est spécifiquement appliqué aux 12 apôtres. Le mot apôtre est spécifiquement appliqué aux 12 apôtres qui étaient le premier noyau que Jésus s'était formé. Le premier noyau de disciples qui recevaient des instructions du Seigneur, puis qui étaient envoyés, selon dans le sens de leur titre, ça lui disait que c'était des ambassadeurs, ou des envoyés, ou des messagers. Oui, on voit aussi que ce mot-là, apôtre, a été pris au sens un peu plus large, parce qu'il y en a eu d'autres, des envoyés. C'était des gens qui faisaient pas partie des 12 apôtres, mais ils étaient quand même envoyés par le Seigneur, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas. Puis, on voit que ce mot-là, il a été appliqué particulièrement aux 12 apôtres, mais qui était appliqué à Paul et Barnabas aussi. Le nom moderne qu'on pourra donner pour ce genre de titre-là, ça serait missionnaire. Missionnaire, c'est un peu dans la même idée quand quelqu'un dit que le Seigneur lui a mis à cœur d'aller travailler comme missionnaire en Afrique, mais en réalité, le Seigneur l'a envoyé en Afrique, fait que ça sera comme dans le même sens que apôtre. Mais pas avec la même autorité. Vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est pas avec la même autorité. Parce que les apôtres dans l'Ancien Testament, dans le temps de Jésus, les apôtres avaient plus que juste le titre d'être envoyés. On va le voir tantôt dans les autres versets. Vous allez comprendre la différence. Fait que, avec quels critères qui étaient choisis les douze apôtres, les premiers apôtres, sur quoi que Jésus s'est basé pour pouvoir choisir ces douze apôtres? Ça n'a pas été complexe. Ça nous dit que Jésus a prié toute la nuit. Le lendemain matin, il a nommé les douze apôtres. On voit que les douze apôtres, c'est des choisis de Dieu. C'est Dieu qui a choisi les personnes. Jésus est en prière toute la nuit, puis Dieu lui a montré quelles étaient les personnes qu'il devait aller chercher pour leur demander de faire cette tâche-là. Ça nous dit dans Luc 16, 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples, puis il en choisit 12, auxquels qu'il donna le nom d'apôtres. » Puis là, après ça, on voit que en lisant les évangiles, on voit qu'il y en a un qui a abandonné son ministère, puis qui a renié Jésus. Fait que, en reniant Jésus, puis en le vendant, parce qu'il a décidé de faire de l'argent avec Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? Il a perdu son titre d'apôtre, puis là, ça nous dit dans les écrits, dans les actes, qu'ils ont remplacé le 12e apôtre. Là, on va voir avec un passage qui est intéressant, parce qu'on va voir quel est le critère avec lequel ils ont choisi le 12e apôtre pour remplacer Judas. Dans Actes 1:21, ça nous dit, quand ils ont choisi le 12e, il dit, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où ce qui a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui soit choisi comme associé, comme témoin de sa résurrection. » Là, ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Ils ont présenté deux personnes pour remplacer Judas. Mais les critères sur lesquels ils se basaient pour trouver quelqu'un qui remplacerait Judas, il fallait que ce soit une personne qui a accompagné tout le temps Jésus depuis le début de son ministère, puis qui était aussi témoin de la résurrection de Jésus. Il fallait qu'il soit témoin que Jésus était mort, puis que Jésus est ressuscité. Parce que c'était la mission des apôtres. La première mission, c'est de commencer à répandre la bonne nouvelle, à répandre l'Évangile, à annoncer que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Être aussi capable d'annoncer la parole de Dieu. Fait qu'il fallait que ce soit des gens qui étaient là depuis le début. Là, ils n'ont trouvé deux, puis ils ont tiré au sort, puis le sort a tombé sur un des deux. On voit que principalement, les apôtres devaient être des témoins de l'enseignement de Jésus et de la mort de Jésus et de sa résurrection. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'apôtre Paul que lui, plus tard, il a été choisi aussi comme apôtre? Paul, il explique que c'est que s'est passé quand Jésus lui a apparu. Dans Galates 1:1, ça nous dit, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, le Dieu et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » On voit que, dans ce passage-là, l'apôtre Paul, il dit, « Moi, je suis un apôtre, mais c'est pas à cause des hommes. C'est pas les hommes qui m'ont nommé apôtre. C'est Dieu qui m'a nommé apôtre. » Et comment il a été nommé apôtre? Ça nous dit que Jésus lui a apparu sur le chemin, pendant qu'il s'en allait persécuter des chrétiens, parce que l'apôtre Paul, il haïssait les chrétiens, il persécutait les chrétiens. Il s'en allait pour en persécuter quelques-uns. En chemin, il a eu une vision, il a eu comme une lumière autour de lui, il a vu Jésus lui apparaître, puis Jésus lui a parlé, puis Jésus a dit, « Je t'ai choisi pour être un témoin. » Témoin de quoi? Témoin de ce que je suis ressuscité. Lui, Paul, il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » L'autre, Jésus, il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Là, Paul, l'apôtre Paul, a été témoin de la résurrection du Seigneur. Puis Jésus lui a dit, « Je t'établis pour être un témoin pour les choses que je t'ai apparues. » et pour les autres choses que je t'apparaîtrai. Parce que Jésus, dans la suite, lui a apparu à plusieurs reprises. Plus tard, on voit que Paul est allé voir les premiers apôtres, les 12 apôtres qui étaient à Jérusalem. Puis là, il a commencé à expliquer qu'est-ce que Jésus faisait à travers de lui, à travers son ministère. Puis là, c'est là que dans Galates 2, le verset 7, ça nous parle que l'apôtre Pierre, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme Pierre pour les circoncis, parce que c'est Paul qui est en train de parler, il dit « Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Puis ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, là, Pierre, Jean et Jacques, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions vers les païens, puis eux vers les circoncis. » On voit que les premiers apôtres avaient reconnu que l'apôtre Barnabas et Paul avaient reçu un ministère de Dieu, puis qu'ils avaient été appelés à aller vers les païens, puis tandis que les 12 apôtres, le ministère, c'était principalement vers les circoncis, les juifs. Quand on dit les circoncis, c'est les juifs. Dans la Bible, ça nous dit, dans la révélation qu'on a, que les apôtres sont placés par Dieu au premier rang des anciens. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, 28. Ça dit, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, les docteurs. » Là, on voit les autres termes, on va les étudier dans les autres semaines. Mais ce soir, on voit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. C'était comme le poste le plus élevé en autorité dans l'Église du Seigneur. Puis c'est particulièrement dans les 12 apôtres et l'apôtre Paul qui ont eu la plus grande influence pour l'Église du Seigneur qui démarrait dans le 2000 ans. On voit dans un autre passage que les apôtres étaient considérés comme des colonnes, des gens solides, des gens qui étaient des exemples pour l'Église de Jésus-Christ. Puis ça nous dit que tous écoutaient la sainte doctrine ou les enseignements que les apôtres faisaient. Dans Éphésiens 2, 20, ça nous dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, puis Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notre enseignement qu'on a reçu, tout ce qu'on a comme révélation de la Bible, vient principalement de deux endroits, de Jésus, dans les quatre évangiles, et des apôtres, qui est tout le reste des écrits du Nouveau Testament. Toutes les révélations de Dieu reposent, qui ont été données par les apôtres. Les apôtres sont comme la base de toute la révélation qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on peut apprendre sur Dieu, c'est en lisant dans le Nouveau Testament, on l'apprend par les apôtres. Parce que c'est les apôtres qui ont donné l'ensemble de toutes les explications qu'on a dans le Nouveau Testament. Fait que Jésus, c'est la pierre de l'angle, mais toute la structure de l'enseignement, c'est les apôtres qui nous l'ont donné. Il y avait le titre d'autorité, c'est ça que je vous disais tantôt. Un missionnaire fait un peu la même tâche qu'un apôtre, sauf qu'il n'a pas la même autorité. Pourquoi que je dis ça? Parce que les apôtres ont établi c'est à quoi les règles de ce qu'on devait faire, qu'on devait pas faire, de ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. Ils ont expliqué, puis ils ont écrit les révélations de Dieu, puis on l'a comme base de notre foi. Tandis qu'il n'y a pas personne aujourd'hui qui a reçu une autorité quelconque pour changer les écrits de la Bible, pour changer les enseignements, pour modifier. Il n'y a personne sur la terre qui a cette autorité-là. L'ensemble de notre révélation est basé sur les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion en regardant ce passage-là? Qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et non de nouveaux apôtres, en parenthèses, qui se diraient apôtres ou qui se diraient autre titre, qui dirait qu'il y aurait l'autorité de modifier les écrits de la Bible, puis rajouter des lois de l'Église, rajouter d'autres lois ou d'autres choses. Comme, par exemple, le pape. Que lui, il pense qu'il a l'autorité de modifier les écrits et de changer les choses qui sont écrites comme révélation dans la Bible. Fait que là, il va établir, on va prier des saints, on va prier Marie qui est décédée, on va prier les morts, on va faire chanter des messes pour rester moins longtemps en purgatoire. Ils ont changé plein d'affaires qui n'est pas écrit dans la Bible. Ils pensent qu'il y a l'autorité de modifier ça, mais la Bible est claire que notre fondement de la foi vient sur le fondement des apôtres. Puis où est-ce qu'on retrouve les enseignements des apôtres?
Dans le Nouveau Testament.
C'est juste là qu'est la base de la foi du véritable christianisme. Le reste, les gens qui pensent qu'ils peuvent modifier des choses, c'est des religions. Et je vous encourage en passant d'être là dimanche parce que je vais prêcher sur le premier des commandements de Dieu, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Puis pendant plusieurs semaines, je vais prêcher sur les 10 commandements, puis ça va nous donner un éclaircissement. Pourquoi faire avec tous les autres faux dieux qui nous enseignent d'autres fausses doctrines? Qu'est-ce que la Bible dit de faire avec tout ça? Fait que le fondement de tout chrétien, c'est le Nouveau Testament, point final. Tout le reste, même si ça serait un ben bon gars, c'est ben de valeur, c'est juste un ben bon gars, c'est pas un apôtre, il a pas l'autorité de changer quoi que ce soit. On voit que même les premiers chrétiens, dans Actes 2, 42, ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, puis se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les mains des apôtres. » On voit dans ce passage-là que les apôtres étaient accompagnés par Dieu, puis faisaient beaucoup de signes, de prodiges, des miracles. Dieu voulait que les gens croient à ce que les apôtres prêchaient. C'est tout simple que ça. Puis les enseignements, les gens s'accrochaient aux enseignements des apôtres, puis ils prenaient ça comme si c'était la véritable parole de Dieu. Ils croyaient. Puis ça nous dit dans Actes 4:33, qui est un autre verset qui complète celui-là, ça dit « Les apôtres rendaient beaucoup de force, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, puis une grande grâce reposait sur eux tous. » Les apôtres, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'était un des critères pour être apôtre. Il fallait que tu sois témoin de la résurrection de Jésus. Fait que quand tu es témoin, tu peux-tu être convaincant? Quand tu es toi-même convaincu, tu l'as vu, tu le sais que Jésus a ressuscité. Il parlait avec une pleine autorité, avec une pleine force, puis il rendait témoignage avec beaucoup de force, puis avec des signes, des prodiges qui accompagnaient les apôtres. Lorsqu'il y avait eu des discussions, parce que là, les églises commençaient, hein, dans le temps des apôtres, là, ça commençait. La première église qui s'est formée, c'était à Jérusalem. Quand il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre est sorti dehors, il y avait 3000 personnes, là, il a commencé à prêcher. Il y a 3000 personnes qui se sont converties à suivre Jésus. C'était la première église. Après ça, il y a eu des voyages missionnaires qui ont été faits pour ouvrir des églises un peu partout. Fait que ça commençait, les églises, dans ce temps-là. Puis à un moment donné, dans les débats, ça venait comme un point de discussion. Est-ce qu'il fallait faire circoncire les nouveaux chrétiens, comme les Juifs y étaient circoncis? Par la loi de Moïse, c'était un des principes. Pour démontrer que tu es vraiment un croyant à la loi de Moïse, il fallait que tu te fasses circoncire. Bon, fait que là, c'était un débat. Il commençait à avoir des points de doctrine qui étaient débattus. Là, il voulait savoir quoi faire dans telle et telle situation. Qu'est-ce qu'il faisait en ce temps-là? Il s'en allait à Jérusalem rencontrer 12 apôtres. Puis il mettait cette question-là devant les apôtres. Les apôtres priaient puis donnaient les réponses. Qu'est-ce qu'il était la volonté de Dieu sur les discussions, sur les points de doctrine qui devaient être tranchés. Comme un exemple, c'est arrivé, on voit ça dans Actes 15, le verset 1, ça nous dit que quelques hommes venus de la Judée y enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de, des leurs monterait à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Là, on voit que dans le débat, ça a été réglé, qu'ils n'imposaient pas la circoncision aux nouveaux qui se convertissaient, que le salut était par la foi en Jésus, tout le monde était sauvé par la foi en Jésus et non pas par la pratique des œuvres de la loi de Moïse. Fait que, ils ont tranché la question. Le Saint-Esprit nous a dit, puis il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous dire que, là, ils ont dit la réponse. C'est ça qui était un des rôles bien importants des apôtres, de trancher les points de doctrine, parce qu'il y a toujours eu du monde qui cherchait à faire des troubles puis des ostinations, puis ça prenait quelqu'un pour trancher, puis l'autorité, c'était les apôtres. Puis on voit aussi, comme on l'a vu un petit peu tantôt, le don de la foi, le don d'opérer des miracles qui se remarque dans le ministère des apôtres. On voit dans Actes 5:15, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Dans 2 Corinthiens 12:12, ça nous dit que Paul lui-même, il dit, les preuves de mon apostolat, les preuves qu'il était un apôtre, ont éclaté parmi vous avec une patience à toute épreuve par des signes, des prodiges et des miracles. Fait que les apôtres, que ce soit les 12 apôtres ou l'apôtre Paul, ils étaient accompagnés par la puissance de Dieu, puis il y avait toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles qui se produisaient dans leur ministère pour démontrer que Dieu était avec eux, puis Dieu approuvait leur ministère. Puis on voit qu'un des rôles aussi des apôtres, c'était de participer à l'implantation d'églises. On voit dans Actes 8:14 que les apôtres, ils avaient quitté Jérusalem parce qu'ils avaient appris que dans la Samarie, ils avaient reçu la parole de Dieu, puis ils envoyèrent Pierre et Jean. Puis ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, puis reçurent le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a utilisé l'apôtre Pierre pour ouvrir la porte aux Samaritains, ouvrir la porte aux Juifs, quand il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit était répandu. Après ça, il est allé voir les Samaritains, c'est encore Pierre qui a été utilisé pour imposer les mains, puis les gens reçussent le Saint-Esprit. Puis qu'on voit aussi que les premiers païens, Corneille, mais c'est à travers de Pierre encore que Dieu a répandu le Saint-Esprit aux païens, aux premiers païens qui se sont convertis. Fait que, dans le petit survol qu'on vient de faire, c'était pour nous démontrer le ministère d'apôtre. Que c'est un ministère important parce que la Bible, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Mais les apôtres, avec l'autorité que les premiers apôtres avaient, il n'y en aura plus d'autres. Même si, de temps en temps, vous allez voir qu'il y a des groupements d'Église qui... Il y a des gens qui s'auto-proclament apôtres. Ils se disent apôtres. Peu importe sur quelle base qui se présente pour être des apôtres, ça ne sera jamais comparé aux premiers apôtres qui, eux, avaient l'autorité du Seigneur et avaient aussi la révélation pour écrire la parole de Dieu telle qu'elle est aujourd'hui. Puis on a bien vu aussi, on l'a peut-être pas vu ensemble avec vous dernièrement, mais antérieurement, que j'ai fait des messages qui était très, puis ça, je vais peut-être revenir avec ces sujets-là, il est très important qu'on ne modifie pas la Bible, qu'on n'ajoute rien, puis qu'on n'enlève rien de ce qui est écrit. Il y a un autre passage qui dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La révélation écrite du Nouveau Testament est complète. On n'a pas à s'attendre à avoir de nouveaux livres par des nouveaux apôtres, comme s'ils se disent qu'ils ont l'autorité pour pouvoir imposer de nouvelles règles. Tout ce qu'on a besoin de savoir, il est déjà écrit. Puis tout ce qu'il a décrit, il a amplement pour nous diriger dans toutes les voies du Seigneur, parce que Paul nous dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Fait que c'était ça qui était mon partage pour ce soir, juste pour qu'on puisse situer c'est quoi le rôle d'un apôtre dans l'Église du Seigneur.